Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Le confort dans l'habitat, une émission préparée avec l'équipe de l'association Promotelec. On va s'intéresser aujourd'hui pour cette première édition de l'année à l'habitat des seniors. En effet, on va se poser la question: comment adapter l'habitat au vieillissement de la population? Alors les seniors, on en a beaucoup parlé évidemment, ils sont personnes à risque, on le sait, dans la pandémie qui nous frappe, mais il y a peut-être, vous le savez, eh bien, d'autres risques pour les seniors, surtout, peut-être pas le troisième âge, mais le quatrième âge, c'est le risque d'accident quand on est tout simplement chez soi, dans sa salle de bain ou en train de faire du bricolage. Alors, chaque année, il y a encore trop d'accidents domestiques. Or, ceci pourrait peut-être être évité si on adaptait, eh bien, mieux les logements, si c'était mieux conçu, s'ils étaient aménagés. Comment procéder à cette adaptation? Quels sont les travaux à réaliser? Et puis, au-delà de l'intérieur qui est à aménager, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas également modifier l'environnement, le cadre de vie qui sont à repenser? La réponse, ou des éléments de réponse, en tout cas, on va le voir avec deux spécialistes. Je suis ravi d'accueillir Florence Delette, la directrice générale de l'association Promotelec. Bonjour Florence.
Bonjour Fabrice.
Et Luc Broussy, le président de la filière Silver Economy. Bonjour Luc.
Bonjour.
Alors Luc, vous venez de vous voir confier une feuille de route sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement par différents ministères. On va détailler tout ça. On va voir que c'est aussi un reboot, une version 2 de ce que vous avez déjà fourni il y a quelques années. Mais tout d'abord, Florence, pour poser le débat, on va parler un petit peu de ces seniors. Pourquoi est-ce que c'est différent? Est-ce que l'habitat doit être repensé? Et puis peut-être en préambule, à quel âge est-ce qu'on est senior? On va parler de l'âge du senior. Alors pas du senior professionnel, hein, du senior, à quel âge on devient senior et à quel âge on doit commencer à songer peut-être à modifier son habitat.
Bien, il y a plusieurs âges en effet, puis je dirais qu'aussi il y a plusieurs conditions physiques ou conditions psychologiques. Mais on peut dire qu'à partir de 70 ans, il est important de repenser son logement parce que on a peut-être des habitats qui ne sont pas adaptés. Adaptés à quoi? Adaptés au fait que nous regardons pas vraiment bien en marchant et donc du coup il nous faut des sentiers lumineux, des chemins lumineux, que nous pouvons glisser sans avoir l'alerte, l'agilité que nous avons quand nous sommes plus jeunes dans la salle de bain. Donc plein de petits détails qui éviteraient des chutes, qui éviteraient bien évidemment des accidents.
D'autant qu'on est plus fragile. La chute, c'est souvent la fracture, la fameuse, le col du fémur. Hein,
voilà, tout à fait.
Dans l'entourage, une personne âgée, effectivement, qui a été victime de cette chute et de cette fracture.
Tout à fait. Ça concerne tout le monde, mais bien évidemment, avec l'âge, on est moins agile et par conséquent, la chute est plus vite arrivée. En plus, on a tout un débat aujourd'hui sur justement avec des primes qui sont et des aides qui sont autour de la rénovation du logement. Et je pense que c'est une grande opportunité de pouvoir profiter de ces aides aussi pour s'interroger sur le confort dans l'habitat, sur la façon dont on souhaite vivre dans son logement, dans un logement qui serait évolutif, adapté à notre cycle de vie.
Alors justement, on va voir ça. Luc Broussy, donc justement, vous qui connaissez bien, président de la filière nationale Silver Economy, venez de vous voir confier par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, Emmanuel Wargon, ministre déléguée au logement, et Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires, une feuille de route sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, c'est d'essayer, vous le dites, hein, l'enjeu c'est de conserver nos seniors dans leur habitat, là où finalement ils se sentent le mieux.
C'est-à-dire que vous avez raison, il faut rendre possible ce qui est souhaitable. Quand on interroge les Français, surtout évidemment dans une année frappée par la crise sanitaire et frappée surtout par le nombre de décès en EHPAD, eh bien, plus que jamais, les Français ont envie de vieillir chez eux. Ça, c'est un souhait. Et tous les sondages montrent, depuis des années et des années, ce souhait massif, quasi unanime, je veux vieillir chez moi. Mais ce n'est pas tout de le souhaiter. Encore faut-il tirer des conséquences en matière de politique publique de ce désir des Français de vieillir chez soi. Voilà, la mission qui met confiée, vous l'avez dit, par trois ministres, elle consiste au fond à répondre à cette question. Comment rendre possible le plus longtemps la vie à domicile quand on est quand on avance en âge? Alors, vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'il y a peut-être trois ministres qui ont signé la lettre de mission, ce qui est déjà un premier point positif parce que ça donne une vision un peu panoramique de la question. La ministre de l'autonomie, parce que là est l'enjeu, comment rester autonome le plus longtemps possible. La ministre du logement, parce que tout part de là. Plus le logement est adapté, plus il permet de vivre en sécurité, on évite la solution alternative qui est le recours à l'EHPAD. Et Jacqueline Gourault, pourquoi la ministre de la cohésion des territoires ? Parce qu'il ne suffit pas de vivre dans un logement adapté. Encore, vous l'avez dit en introduction, faut-il que ce logement soit dans un environnement qui lui-même et un cadre de vie qui lui-même soit adapté. Et donc, il faut aussi avoir des réflexions sur l'adaptation de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat, et puis aussi une adaptation à son territoire. Parce qu'on ne vieillira pas de la même façon demain selon qu'on habite en centre-ville, avec des commerces à proximité, en milieu périurbain où la vie est très difficile sans voiture, ou en milieu rural, où là, les formes de solidarité existent, mais sont évidemment bien différentes, et où les questions de mobilité se posent plus que partout ailleurs.
Oui, donc, quelques chiffres, justement, pour illustrer, on a pas mal d'accidents chaque année, si vous avez des chiffres à nous communiquer.
Oui, ce chiffre, il est connu de tous, ou plutôt non, il est connu de tous les spécialistes, mais il n'est pas connu de tous. Parce que s'il était connu de tous, il constituerait probablement un des plus grands scandales de santé publique que vit notre pays aujourd'hui. Plus de 10 000 morts par an de seniors au-delà de 65 ans d'accidents domestiques. Alors, c'est quoi l'accident domestique ? C'est la chute, essentiellement. C'est la chute dans la salle de bain. C'est la raison pour laquelle beaucoup, notamment des organismes comme Action Logement, ont priorisé la transformation de baignoire en douche, c'est parce que beaucoup d'accidents, et la majorité des accidents, se passent dans la salle de bain. Je pense également à la cuisine, ça peut être des brûlures, ça peut être des chutes dans la cuisine. Et puis, c'est aussi l'environnement immédiat du logement. C'est le passage piéton en bas de chez soi, c'est la voirie défectueuse qui fait qu'on chute. Donc, 10 000 personnes de plus de 65 ans meurent chaque année non pas d'accident de la route, non pas du terrorisme, non pas de problèmes cardiovasculaires, mais d'accidents domestiques. Ouais, donc ça doit nous alerter, faire de l'adaptation des logements une priorité de santé publique.
Ouais, Florence, c'est un chiffre étonnant et même effrayant que nous communique Luc. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Et c'est vrai qu'on a pu faire des choses pour, par exemple, les accidents de la route. Là, c'est carrément un domaine de santé, un enjeu de santé publique.
Non, je crois que ce chiffre, comme dit Luc, il est connu des spécialistes, il n'est pas connu du commun des mortels, et c'est bien une raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est-à-dire Luc à travers la présidence de Silver Eco, où on doit, prendre ce sujet de l'adaptabilité des logements pour les seniors comme vraiment, une réflexion, et au-delà d'une réflexion nationale, une concrétisation des politiques à mettre en place avec bien concrètement, avec des travaux qui sont réalisés justement pour éviter cela et réduire cela au maximum, avoir un minimum, presque une juste exigence dans le logement qui permette justement de juguler ces chutes et de les prévenir.
Luc, justement, vous consultez actuellement tous azimuts pour avoir les bonnes idées, peut-être une feuille de route que vous allez détailler. C'est une mission flash, donc vous avez peu de temps en plus pour rendre vos conclusions. Heureusement, vous êtes spécialiste du sujet. Je l'avais dit en préambule, vous avez déjà travaillé, vous aviez déjà rendu un rapport, je crois que c'était en 2013-2014. Est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion, des choses sur lesquelles on peut s'accorder ? On sait qu'en ce moment, il y a pas mal d'aides. On a beaucoup parlé des baignoires qui disparaissent au profit peut-être des douches à l'italienne pour éviter justement ces chutes. Est-ce que ce sont les bonnes solutions ou est-ce que ce sont des trucs, du rafistolage ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, c'est un élément parmi d'autres. Mais je pense que la priorité d'abord, c'est de rendre lisible et visible le dispositif d'aide. Il faut que chaque senior dans ce pays puisse se dire d'abord qu'il y a une nécessité, non pas forcément à adapter son logement, mais à réfléchir à l'adaptation de son logement. Donc, il y a un vrai problème culturel. Donc, moi, je souhaite, on verra si je le formalise de cette façon-là dans mes préconisations, mais qu'il y ait un diagnostic habitat mobilité aux alentours de 75 ans qui permette que chaque citoyen âgé de 75 ans et plus se posent la question. Le logement dans lequel je suis aujourd'hui, avec ma femme ou pas, eh bien, est-ce que cet appartement ou ce logement ou cette maison sera adapté aux 10, 15, 20 prochaines années pendant lesquelles je vais me fragiliser, je vais vieillir. Est-ce que si c'est adaptable, quel sera le coût? Si ce n'est pas adaptable, est-ce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, comme ça se passe déjà aujourd'hui, de manière silencieuse mais massive, eh bien, qu'un certain nombre de retraités vers 75-80 ans changent de domicile? Parce que ce que les gens veulent, c'est vieillir chez eux. Or, c'est ce chez eux qui va évoluer avec le temps. Ce chez eux, ça peut être une résidence senior, ça peut être un appartement en centre-ville au lieu du pavillon en banlieue, ça peut être… voilà. Donc, c'est d'abord un point culturel. Vers 75-80 ans, il faut se poser la question, plus on déterminera le bon lieu où vieillir, plus on vivra longtemps. Oui. Ensuite, l'adaptation du logement, c'est à la fois un certain nombre d'équipements, Florence l'a rappelé, de la barre d'appui au chemin lumineux, à la douche adaptée, aux meubles à hauteur variable, il y a plein de choses aujourd'hui. Pas aussi minorer l'importance que prend dès aujourd'hui, mais que prendra plus encore demain, tout ce qui est numérique, tout ce qui est Internet des objets. Il y a toute une série de solutions qui existent déjà aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore généralisées. Les volets électriques roulants, les capteurs de chute, les sols qui permettent de détecter les chutes. Il y a toute une série d'éléments comme ça de manière… Et je pense que la crise sanitaire qu'on a aujourd'hui a montré qu'au fond, les personnes âgées, si pour peu qu'on les encourage à cela, adoptent très rapidement l'usage du numérique. Donc, le logement adapté de demain, ce n'est pas seulement des travaux sur les murs, sur l'environnement, c'est aussi un outillage numérique qui fera d'ailleurs appel à de nombreux artisans. Et c'est ça l'autre élément important, c'est qu'il faut que les personnes âgées se sentent en sécurité par rapport aux travaux qui sont faits chez eux, que les personnes âgées aient avec le monde des artisans une relation de confiance.
Ouais. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a noté un diagnostic donc habitat mobilité, adaptation du logement, le recours bien sûr à toutes les nouvelles technologies dont les seniors, contrairement à ce qu'on croit, s'emparent effectivement très très bien. Hein. On connaît des seniors qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, etc. et qui s'en sortent de manière tout à fait convenable. Florence, qu'est-ce que ça veut dire pour l'association Promotelec? Comment vous accompagnez ce mouvement là justement si on met en place ce diagnostic mobilité? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui sont lancées?
Bah, je dirais d'abord, comme Luc le disait tout à l'heure, sa mission, elle date d'avant, ou du moins son travail sur les seniors date d'avant. Promotelec aussi, on a une offre, nous, qui s'appelle Confort Habitat ou Confort pour les seniors, Habitat pour les seniors. Et dedans aussi, on a un questionnaire qui permet justement de faire un diagnostic de l'habitat dans lequel on est et de voir, à la fin, vous avez un budget réalisable ou pas selon les différents types d'aménagement que vous devriez faire. Et puis après, il y a toute cette communication que fait l'association autour justement de cet habitat qui doit toujours être, je dirais, confortable, en sécurité électrique. J'insiste aussi, puisque par exemple, si on parle de haut débit, si on parle de numérique, si on parle d'objets connectés, je me permets quand même de rappeler qu'une condition sine qua non, c'est la sécurité électrique. Hein. Il ne s'agit pas non plus de rajouter des incidents électriques quand on va brancher une quantité d'objets télé. Télé numérique, je ne sais pas comment on dit, mais que ce soit les volets roulants, mais pas que ce soit aussi l'éclairage, que ce soit le chauffage aussi, hein, le chauffage intelligent. Donc tout ça à la base, de toute façon, il faut une sécurité électrique. Donc vous voyez, c'est un tout. On est déjà nous bien avancés depuis des années sur ce sujet. Puis je voulais ajouter aussi une chose. On est dans un côté curatif, on est dans l'information, donc de faire prendre conscience aux seniors, mais pas que. C'est-à-dire il y a l'aspect aussi préventif, c'est-à-dire qu'il faut aussi, même si on a 40 ans, se projeter et peut-être faire au fur et à mesure les aménagements nécessaires pour bien vivre plus tard. Donc il y a deux choses. Il y a un curatif, et le curatif, moi j'ai un chiffre aussi qui est assez éloquent, qui provient de l'ANA. Hein, qui dit que plus de 2 millions de logements ne sont aujourd'hui absolument pas adaptés aux seniors, alors aux seniors de plus de 70 ans. Donc, c'est un sujet quand même qui est important, un chiffre qui est important. Après, il peut y avoir des petites anomalies. Il ne s'agit pas de faire la grande rénovation, mais il y a quand même un gros nœud dur là qui est ces 2 millions de logements. Et puis après, il y a la prévention et le curatif, mais aussi surtout l'information et je dirais aussi une certaine homogénéité de l'information, c'est-à-dire un rassemblement de l'information, parce qu'aujourd'hui, on a toute une panoplie et je pense qu'on peut se perdre aussi dans cette jungle d'information et notamment quand on communique sur les rénovations. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de focus sur la salle de bain et notamment les douches à l'italienne, mais comme disait Luc tout à l'heure, il n'y a pas que cela.
Ouais, Luc, justement, vous avez une anecdote là-dessus, une histoire réelle hein, sur douche à l'italienne qui n'est pas forcément ce dont tout le monde a besoin.
Non, on a probablement besoin des douches à l'italienne. Non, je racontais récemment que quand on a les ministres Brigitte Bourguignon, justement, et Emmanuel Wargon, nous sommes allés à Dijon le jour où on annonçait le lancement de ma mission, et on est allés visiter un logement d'une dame qui venait dans le parc Action Logement, qui venait justement de voir sa baignoire remplacée par une douche. Et donc, elle était très contente, très bien, donc tout le monde applaudissait. Sauf qu'ensuite, elle a indiqué qu'elle avait un autre besoin, c'est qu'elle avait le plus grand mal manuellement à ouvrir son volet électrique. Donc, effectivement, qui s'ouvrait encore plus, au contraire, de manière manuelle. Il n'était justement ni électrique, ni à télécommande. Bon, et voilà. Et donc, les ministres sont sortis de l'appartement en disant c'est bien la baignoire, mais elle a aussi besoin de cela. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'éléments qui sont de nature, au fond, à aider les personnes âgées, mais à aider tout le monde. Parce que vous voyez bien que quand on met un système plus facilitateur d'ouverture des volets, je veux dire, ça sert quel que soit son âge. Et donc, ce design for all, comme on dit en termes techniques, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est bienveillant pour les personnes âgées le soit pour l'ensemble de la population. Moi, je suis myope comme une taupe. Quand j'arrive à la gare de Lyon, j'ai le plus grand mal parfois à voir les panneaux s'afficher parce que c'est écrit en tout petit. Ce qui est gênant pour moi, jeune homme myope, l'est a fortiori pour une personne âgée qui prend les transports. Donc, c'est ça, je crois, que la silver economy, c'est ça qui la caractérise, je crois, c'est qu'à la fois, c'est une économie de l'innovation et en même temps une économie de la bienveillance.
Bon, bah c'est une bonne conclusion. Il nous reste quelques minutes quand même. On voit, ça c'est intéressant, parce que quand on parle des rideaux électriques, par exemple, on est à l'âge zéro de la domotique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui existe maintenant depuis 15 ou 20 ans. Vous parliez tout à l'heure justement de choses plus avancées dans l'Internet des objets. C'est en termes de quoi? De sécurité. On voit maintenant on pourrait avoir des choses connectées qui pourraient déceler justement une chute ou une difficulté pour une personne âgée.
Oui, il y a toute une série d'innovations qui aujourd'hui soit font l'objet d'expérimentation, soit qui sont déjà sur le marché, mais de manière encore presque anecdotique. Donc, ce que nous devons, c'est mettre sur la table l'ensemble de ces bonnes pratiques qui existent ici ou là, et que ces instruments-là deviennent au fur et à mesure des instruments de consommation ordinaire pour les uns et les autres. Alors, les uns et les autres ont des moyens différents, et c'est pour ça que les politiques publiques doivent s'adapter à ça. Il va falloir à un moment donné qu'on ne soit pas inégaux dans l'accès à ces nouvelles technologies. Et donc, c'est un des enjeux aussi de politique publique, c'est de faire en sorte que dans la prise en charge du vieillissement, dans la prise en charge du risque dépendance par les pouvoirs publics, eh bien, de plus en plus, ces outils fassent partie du panier de biens et services pour que chacun ait un égal accès à ces outils. Mais on voit bien à quel point ils sont en train de se développer. Moi, au fond, ma mission, elle se résume aussi à un moment donné à regarder ce qui existe aujourd'hui, ce qui est bien, et surtout de regarder comment on peut démultiplier les bonnes solutions. Comment ce qui apparaît ici ou là comme des bonnes pratiques peuvent devenir des pratiques généralisables partout sur le territoire.
Très bien. En tout cas, merci Luc d'avoir partagé avec nous déjà les premières idées qui vont se dégager. On attend le compte rendu de la mission avec impatience. Florence, je vous laisse le mot de la fin sur cette édition spéciale Habitat des seniors. On l'a compris, vous préconisez effectivement hein, plus le préventif aussi que le curatif. Il faut arriver à se projeter quand même si on est jeune, et même très jeune, 35, 40 ans, pour quand on ne sera plus en situation peut-être de le faire.
Non, je crois qu'il y a les deux. Il y a les deux à avoir. Par contre, il faut bien commencer aussi par quelque chose. Donc, moi, je me permets juste de rappeler que le préventif est important aussi, puisque sinon, on va se retrouver 30 ans plus tard à la même situation qu'aujourd'hui. Donc, autant prévenir les choses. Je pense sincèrement qu'on est, en plus avec trois ministres qui sont impliqués, je pense qu'on a compris l'ampleur du sujet et ses impacts. Maintenant, je pense qu'il y a aussi de la communication à faire, de l'information auprès d'une part de cette tranche de population, mais également aussi de leurs proches, des aidants aussi, des collectivités locales, etc., pour pouvoir justement qu'elles en prennent ça à bras le corps et que ce sujet soit, je le disais il y a encore quelques temps, pris comme une autre politique qui a lieu en ce moment même sur la transition énergétique. En plus, il y a des liens avec notamment la rénovation, la performance énergétique, etc., des logements. Donc, je pense qu'on a tous un devoir de citoyen qui est de d'aider aussi nos seniors, de contribuer à l'amélioration de l'habitat et à leur bien-être aussi dans leur logement pour qu'ils vivent. Luc le rappelait tout à l'heure, hein, on a plus de 60% de gens qui veulent garder leur logement et surtout ne pas aller dans une maison de retraite. Donc, il y a un thème majeur sur lequel on doit, et c'est ce qu'on fait avec Luc, mais aussi avec d'autres acteurs, d'autres entreprises dans ce domaine pour justement produire quelque chose qui permette là de faire prendre conscience à tout le monde que c'est maintenant qu'il faut agir, et pas seulement des mots, mais aussi en réalisation.
Voilà, garder les seniors dans leur habitat, puisque c'est là où ils veulent aller. En tout cas, c'est bien plus sympathique que l'EHPAD, surtout en pleine pandémie. Un grand merci à vous deux, Florence Delette, donc directrice générale de l'association Promotelec. Merci, Luc Broussy, président de la filière Silver Economy. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat. Très bonne journée à tous et à bientôt.
Le Confort dans l'habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.